Et tout de suite, c'est le journal avec Aurélie Kiffer. Bonsoir Aurélie.
Bonsoir Emmanuel, bonsoir à toutes et à tous. Si l'activité des hôpitaux a globalement retrouvé son niveau d'avant Covid-19, la Fédération hospitalière de France estime que des disparités préoccupantes se cachent derrière cette reprise. Elle publie un baromètre sur lequel nous nous pencherons. Offensive israélienne sur l'hôpital Al-Shifa dans la ville de Gaza. L'armée revendique une opération ciblée contre des terroristes haut gradés du Hamas. Nous joindrons notre correspondant Thibault Lefebvre. La mission internationale d'enquête sur l'Iran livre ses conclusions sur la répression des manifestations de 2022. Elle dénonce arrestations arbitraires, tortures, violences sexuelles et exécutions extrajudiciaires. Correspondance à Genève de Jérémy Lanche. Enfin, en cette journée mondiale du recyclage, la chronique Demain l'écho se penche sur la façon dont on peut recycler les déchets plastiques agricoles. Un reportage d'Annabelle Grelier. La crise du Covid-19 a eu des répercussions durables sur l'accès aux soins. 4 ans après le début de la pandémie, la Fédération hospitalière de France publie, en partenariat avec Radio France, son premier baromètre sur l'évolution de l'activité des hôpitaux. Tous établissements confondus, il est revenu au niveau de 2019, mais d'importantes disparités persistent et les professionnels de santé s'inquiètent d'un retard qui n'a toujours pas été comblé. Bonsoir Estelle Caméraire.
Bonsoir.
Selon la FHF, plus de 3 millions de séjours à l'hôpital ont été reportés ou annulés depuis 2019.
La FHF parle d'une dette de santé publique, une activité à rattraper et un retard de prise en charge qui a des conséquences durables sur l'état de santé de la population, en particulier pour les personnes de 45 ans et plus, comme l'explique Zeina Briet, déléguée générale de la FHF.
Le niveau d'activité que nous aurions dû avoir en 2023, s'il n'y avait pas eu la crise sanitaire, n'a pas été atteint et nous sommes même en deçà puisque nous constatons un recul de moins 7% pour la chirurgie lourde, moins 11% de recours pour les prises en charge digestives. Souvent, la chirurgie lourde digestive, c'est plutôt des cancers. Donc ça veut dire que c'est des retards de dépistage de cancer, peut-être des pertes de chance s'il y a eu complications.
Cette situation qui s'explique par plusieurs hypothèses, dont la hausse du renoncement aux soins. L'étude s'appuie sur un sondage Ipsos. 63% des personnes interrogées affirment avoir renoncé à un acte de soins dans les 5 dernières années.
La première raison, c'est que le délai de rendez-vous était trop long. Impossible d'avoir le rendez-vous. La deuxième raison, pour des raisons budgétaires et financières, et la troisième raison, c'est qu'ils étaient trop loin, une distance géographique.
Les patients se tournent vers les urgences qui accueillent déjà 19 millions de personnes chaque année. 54% des Français s'y rendent tout en sachant que leur situation n'est pas urgente. Avec ce rapport, la FHF veut interpeller les pouvoirs publics et demande une loi de programmation avec de nouveaux objectifs sur le moyen et le long terme pour mieux coordonner l'hôpital public et la médecine de ville.
Estelle Caméraire, merci. La présence policière a été renforcée à la Courneuve, en Seine-Saint-Denis, au lendemain de l'attaque du commissariat aux mortiers d'artifice et cocktails Molotov. Le maire communiste Gilles Pou appelle à l'apaisement. Ces débordements, déclare-t-il, ne rendent justice à quiconque. L'attaque a fait suite à la mort d'un jeune à scooter mercredi dernier lors d'une course-poursuite avec la police à Aubervilliers. Un collectif de journalistes et de citoyens vient de lancer l'OFALP, l'Observatoire français des atteintes aux libertés de la presse. Alors que le Parlement européen vient d'adopter en fin de semaine dernière une législation destinée à protéger les journalistes contre les ingérences, force est de constater que les entraves à nos missions sont en forte hausse. Bonsoir Mathilde Cariou.
Bonsoir à tous.
Elles sont donc ces entraves plus nombreuses, plus fréquentes, mais la tendance est difficile à quantifier. C'est justement ce que veut faire cet observatoire, Mathilde.
Exactement, qualifier et quantifier les atteintes à la liberté de la presse. L'idée ici, c'est de recenser via des signalements toutes les difficultés rencontrées dans nos missions. Ça peut être les agressions physiques sur le terrain, les cas de censure dans les rédactions, les arrestations abusives ou les procès bâillons. Bref, tout ce qui fait qu'on a du mal parfois à faire correctement notre métier. À chaque signalement, il faudra remplir un formulaire, qui, quoi, quand, comment, etc. Ces données, elles seront classées, vérifiées bien sûr, et analyser pour produire chaque année un rapport sur lequel les autres acteurs de la défense de la liberté de la presse, RSF, Anticorps, pourront s'appuyer.
Et ce rapport, qu'est-ce qu'il va permettre ?
Bien de vérifier, par exemple, si certains sujets sont plus sensibles que d'autres, si certains acteurs ou moyens de pression sont plus répandus que d'autres. Par exemple, sur la question de la concentration des médias, qu'on a beaucoup évoqué ces derniers jours avec le rachat du groupe Altice, ça c'est très difficile à objectiver. Donc l'OFALP a prévu 2 critères d'analyse, la censure structures internes et les décisions verticales.
Et cet observatoire est constitué de journalistes et de citoyens.
Oui, des journalistes télé, radio, presse écrite, pour la plupart membres d'autres associations ou de syndicats, SNJ, Conseil de la déontologie, le collectif Informé n'est pas un délit, et des citoyens, donc non journalistes, qui vont apporter un regard extérieur pour relativiser certaines choses qui peuvent nous paraître dramatiques ou au contraire souligner des anomalies qu'on aurait peut-être intégrées.
Mathilde Cariou. La note détaillant l'instauration des groupes en classe de 6e et 5e vient d'être publiée au bulletin officiel de l'éducation. Elle détaille les objectifs et modalités de cette mesure phare du choc des savoirs voulue par Gabriel Attal lorsqu'il était encore ministre de l'éducation. Plutôt que des groupes de niveau en français et en maths, expression utilisée par le Premier ministre, Nicole Belloubet avait préféré parler de groupes de besoins. Et c'est l'appellation qui a été retenue lors de la publication des décrets au journal officiel. Mais les syndicats enseignants restent opposés à cette mesure, car si la sémantique change, le principe reste le même, dénonce Sophie Vénétité, la secrétaire générale du SNES-FSU.
Les textes qui ont été publiés représentent surtout un compromis politique entre Nicole Belloubet et Gabriel Attal. On sait qu'il y avait une petite guéguerre sémantique entre les deux sur la façon dont il fallait qualifier ces groupes et derrière qu'il y avait certainement une opposition sur la conception de ces groupes. Au final, on a le mot groupe qui apparaît, mais sur le fond, rien n'a vraiment changé. D'ailleurs, dans ce même texte, on nous dit qu'il faudra faire un groupe avec les élèves les plus faibles. On est donc bien sur une forme de tri social. C'est ce qu'on peut craindre et c'est même quasiment ce qui est écrit dans un des articles de l'arrêté, quand on précise que les élèves les plus faibles seront dans un groupe à effectif réduit. Il s'agit bien de mettre de côté les élèves qui ont les moins bons résultats et qui sont d'ailleurs bien souvent les élèves qui sont de milieux les plus défavorisés. Donc on s'achemine bien vers une forme de tri social. Et c'est vrai que quand on se rappelle ce que nous disait Nicole Belloubet ces dernières semaines, qu'il n'y aurait pas de tri social, qu'on ne mettrait pas d'un côté les élèves les plus faibles et de l'autre côté les élèves les plus forts, bon bah au final on s'aperçoit que c'est bien ce qui va se passer et que sur le fond, c'est bien finalement le choc des savoirs tel que le pense Gabriel Attal qui l'a emporté.
Sophie Vénétité au micro d'Hakim Kasmi. La note officielle du ministère insiste, je cite, sur la confiance dans les équipes pédagogiques, la souplesse dans l'organisation et la mobilisation de l'ensemble des personnels concernés. 18h07 sur France Culture. En cette journée mondiale du recyclage, la chronique Demain l'écho s'intéresse aux plastiques agricoles. Dans ce secteur, 116 000 tonnes de déchets sont produits chaque année en France. 75% sont collectés, mais une grosse moitié seulement est recyclée sur notre territoire. Le reste part vers d'autres pays d'Europe ou en Turquie. Alors pour réduire nos exportations de déchets, de nouvelles unités de recyclage vont être créées. En Normandie, Récy West a mis au point une technologie innovante pour recycler les filets et les ficelles des ballots de paille qui n'avaient jusque-là pas de solution de recyclage. Le reportage d'Annabelle Grelier.
En agriculture comme ailleurs, le plastique est largement utilisé. Bâches et filets de protection, sacs de fertilisants, bidons. Selon le principe de responsabilité élargie des producteurs, dit du pollueur-payeur, deux collectes par an sont organisées et financées en partie par les distributeurs qui vendent ces produits et par l'éco-contribution incluse dans le prix d'achat aux agriculteurs. Avec deux usines en France de recyclage de plastique agricole, la filière va pouvoir s'appuyer sur quatre nouvelles unités d'ici 2025. À Argentan, la jeune pousse Récy West a choisi de s'attaquer particulièrement au recyclage des filets de balles rondes de fourrage et les ficelles de bottes de paille. Une niche, le gisement est estimé à 30-40 000 tonnes par an, mais qui, selon Pierre-Nicolas Musilier, le directeur de l'usine, évitera bien de la pollution.
Avant, il y avait deux solutions, voire trois. La première, c'était l'enfouissement directement après collecte, la valorisation énergétique dans des cimenteries, etc. Ou alors, c'était même pas collecté, c'était brûlé sur champ par les agriculteurs.
Il faut dire que ces déchets plastiques, qui sont souvent sales et mélangés à la paille, ne sont pas si simples à recycler. Pour éviter le gaspillage de ressources et d'énergie, Récy West a mis au point une technique innovante et économe.
Moi, je voulais que mon travail soit utile. Et donc, travailler pour l'environnement, c'était fondamental.
Originaire d'une famille d'industriels du Pérou, Marcella Moisson, la présidente et fondatrice de Récy West, s'est inspirée de l'industrie textile pour aboutir à un résultat. Intéressant.
Je coupe au lieu de broyer, j'effiloche, je fais du battage, donc je secoue, je filtre par voie pneumatique et je n'utilise pas du tout d'eau.
On enfile casque et chaussures de sécurité et nous voilà avec Pierre-Nicolas Musilier sur la première chaîne de traitement installée et opérationnelle depuis l'année dernière.
Donc là on est sur le début de la ligne de process de nettoyage. Vous avez un robot qui alimente la ligne et on a deux opérateurs qui vont enlever tous les indésirables. Donc les sacs plastiques, les erreurs de tri des agriculteurs, donc ficelles, des canettes, etc.
Et après, on va rentrer dans un process où on va donc pré-nettoyer la matière, on va la secouer, la couper, puis la sécher parce qu'on a beaucoup d'humidité dans la matière entrante. Et après, ça va rentrer dans un process inspiré de l'industrie textile. On va défibrer le filet pour en faire des petites fibres qui vont faire 7 à 8 cm de long et qui seront propres à la fin du process.
À la fin du procédé, les filets et ficelles faits de polypropylène et de polyéthylène seront alors transformés sous forme de granulés pour être réutilisés par les industriels de la plasturgie. Après quelques derniers tests et réglages, Marcella Moisson compte bien faire monter en puissance sa chaîne de traitement dans les prochains mois.
C'est une usine qui puisse recycler quelques 20 à 30 000 tonnes à l'année. Donc aujourd'hui, on a une première ligne et donc on est à peine à 2-3 000 tonnes dans le démarrage. Nous avons quelques verrous technologiques encore à lever que nous sommes en train de faire. Et une fois que tout ça va marcher, on devrait pouvoir recycler si bien les produits collectés en France que les produits collectés dans les pays européens voisins. Puisque par exemple, l'Irlande ou l'Islande qui vont consommer quelques 600-800 tonnes à l'année, ils vont pas installer une usine de 10 ou 20 000 tonnes pour recycler leurs déchets. L'idée, c'est pouvoir récupérer ces déchets et pouvoir les recycler ici aussi.
Cette usine unique en son genre, qui n'utilise pas d'eau pour laver ni traiter les déchets, tend à éviter, selon l'analyse de cycle de vie, 1,7 tonnes d'émissions équivalentes CO2 par tonne de déchets recyclés.
La chronique audio et l'article Demain l'écho d'Annabelle Grelier sont disponibles sur l'appli Radio France et sur le site de France Culture. Les hôpitaux ne devraient jamais devenir des champs de bataille, déplore le chef de l'Organisation mondiale de la santé. Il se dit terriblement préoccupé par la situation de l'hôpital Al-Shifa, le plus grand hôpital de la bande de Gaza. L'armée israélienne y a lancé une offensive ce matin après avoir appelé la population civile à évacuer immédiatement la zone. Bonsoir Thibault Lefebvre.
Bonsoir à tous.
Le gouvernement israélien assure que cette opération a permis, Thibault, d'arrêter des dizaines de terroristes du Hamas.
Les affrontements continuent dans et autour de l'hôpital. L'armée israélienne annonce avoir tué 20 miliciens du Hamas, dont le chef de la sécurité intérieure de l'organisation islamiste, et en avoir arrêté des dizaines d'autres. La chaîne qatarienne Al Jazeera accuse l'État hébreu de détenir un de ses journalistes et elle exige avec Reporters sans frontières sa libération immédiate. Ismaël Al-Roul travaillait dans l'enceinte de l'hôpital autour de 2h30 cette nuit quand l'assaut a été lancé. Il était à ce moment-là avec un autre journaliste palestinien, Wadia Abou Soud, qui a envoyé cette vidéo sur son compte Instagram.
C'est peut-être ma dernière vidéo. On est pris au piège à l'intérieur de l'hôpital Al-Shifa. On est visé par des tirs nourris. Les forces d'occupation sont entrées brutalement et soudainement dans l'établissement et ses environs. C'est ce que vous pouvez entendre à l'instant. Il y a des affrontements violents autour de l'hôpital.
Selon un journaliste de l'agence France Presse, lui aussi sur place, plusieurs immeubles du quartier Al-Rimal ont été visés par des frappes aériennes et des centaines de civils ont été contraints de fuir la zone. En fin de matinée, l'armée israélienne, par la voix d'un de ses porte-paroles, a exhorté la population à se réfugier une trentaine de kilomètres au sud de la ville de Gaza, à proximité de Rafah, où plus d'un million et demi de déplacés s'entassent dans des conditions sanitaires déplorables.
Thibault Lefebvre depuis Jérusalem et deux urgentistes français de retour de Gaza nous apportent leur témoignage. Ils font partie des premiers médecins étrangers à avoir pu se rendre dans l'enclave palestinienne il y a un mois. Pendant deux semaines, ils ont épaulé les soignants de l'hôpital européen de Khan Younes dans le sud de Gaza. Ils vous ont décrit des scènes de chaos, Mathilde Vinceneux.
Il faut imaginer l'hôpital européen de Khan Younes encerclé par une population de déplacés, des couloirs bondés comme le métro parisien en heure de pointe, des urgences où il n'y a plus de brancards.
On était obligé de soigner des blessés graves.
Le docteur Raled Benboutrif, il exerce habituellement comme urgentiste à Toulouse. Il raconte avoir soigné des enfants victimes de bombardements, mais aussi visés par des tirs de sniper.
Ce qu'on a vu, ce qu'on a soigné, c'était des enfants qu'on a tirés comme des lapins. Il y a énormément d'enfants qui sont visés à la tête, au visage.
J'ai passé qu'une demi-journée aux urgences. Mais dans la demi-journée aux urgences, j'ai reçu 5 enfants morts.
Le docteur Pascal André, urgentiste et infectiologue, arrivé de Rodez.
J'ai passé 1h30 à faire une suture à une petite de 10 ans qui avait pris un éclat d'obus, qui avait la moitié du crâne fendu. Quand j'ai trouvé la pince, j'ai dû m'y reprendre vraiment beaucoup. Normalement, j'aurais pu faire ce geste en 20 minutes, tellement le matériel était abîmée.
À Gaza, les hôpitaux manquent de tout, témoignent les deux urgentistes français. Ils racontent des conditions sanitaires infectes, une épidémie d'hépatite A, la menace de la peste ou du choléra, le manque d'eau et d'antiseptiques qui empêchent de laver le bloc et les patients, les plaies qui s'infectent après opération et obligent à des amputations, et l'aide humanitaire qui n'entre pas, le docteur André.
Une machine qui a été commandée pour traiter l'eau. Donc, qui permettrait de répondre aux besoins de l'hôpital européen. Cette machine est bloquée depuis des semaines à Rafah, par les forces armées israéliennes, par le Mossad qui contrôle Rafah. Il y a des quantités d'antiseptiques, d'antibiotiques, de médicaments de première nécessité pour le diabète, pour les cardiopathes, qui sont bloqués de l'autre côté de la frontière. Les patients ne sont pas nourris en réanimation, ne sont pas nourris en néonatologie. Pourquoi ? Parce qu'on n'a pas de quoi mettre dans les sondes. On n'a pas les produits pour nourrir. Donc vous essayez de réanimer des personnes dont vous savez que les besoins caloriques sont très importants et vous n'avez pas de quoi les nourrir. On est sur une situation qui est innommable, injustifiable.
Les deux médecins français dénoncent le silence assourdissant qui entoure la situation à Gaza et se disent prêts à retourner aider les soignants palestiniens dans les prochaines semaines.
Mathilde Vinceneux à Marseille pour France Culture. Un an et demi après la mort de Mahsa Amini en Iran, la répression du mouvement de contestation ne faiblit pas. Et au Conseil des droits de l'homme à Genève, des experts de l'ONU l'affirment, des crimes contre l'humanité ont été commis à l'encontre des manifestants. Exécution arbitraire, emprisonnement, disparition forcée, les forces de sécurité iraniennes ont utilisé tout l'arsenal répressif pour museler les voix dissidentes, Jérémy Lange.
Malgré ces demandes répétées, jamais la commission d'enquête du Conseil des droits de l'homme n'a pu se rendre en Iran. Elle a tout de même réussi à obtenir plus de 27 000 documents, autant de preuves des exactions des forces de sécurité à l'encontre des manifestants. Dans les prisons, la torture est monnaie courante pour extorquer des aveux ou juste pour humilier les détenus. On parle de tabassage, de flagellation ou encore de viol. Et pour ceux qui n'ont pas été arrêtés, d'autres moyens existent pour les faire taire, explique Sarah Hossein. C'est la présidente de la commission d'enquête.
Les forces de sécurité ont tiré à bout portant et de manière très précise sur les manifestants, les blessant à la tête, au cou, au torse, aux parties génitales, mais surtout aux yeux. Des centaines de manifestants souffrent de ces blessures très invalidantes. Beaucoup sont devenus aveugles. Ils sont désormais identifiés pour le reste de leur vie comme des protestataires.
Les enfants ne sont pas épargnés. Au moins 68 mineurs sont morts dans la répression. Elle a fait, estiment les enquêteurs, 551 victimes depuis septembre 2022. 9 personnes ont par ailleurs été exécutées après des procès expéditifs et bien d'autres attendent dans le couloir de la mort. La peine capitale, puissant outil de répression politique aux mains du régime des Mollahs, dénoncent les ONG. En 2023, Téhéran a exécuté 834 condamnés, un record depuis 2015.
Jérémy Lange à Genève pour RFI et France Culture. Et depuis sa prison à Téhéran, l'Iranienne Jarjes Mohammadi, prix Nobel de la paix, dénonce le durcissement de la répression en Iran. Elle appelle l'ONU et les organisations de défense des droits humains à exercer une pression systématique et globale sur Téhéran. Les images en provenance d'Islande sont spectaculaires. Dans la péninsule de Reykjanes, le sol a craqué samedi. Des milliers de litres de lave en fusion se sont répandus. Une fissure de plus de 3 km est apparue et la lave continue d'avancer à un rythme moindre à présent. Il s'agit de la 4e éruption en 4 mois dans une zone qui n'avait pas connu d'activité volcanique depuis 800 ans. L'activité a repris exactement au même endroit et selon le volcanologue Patrick Allard de l'Institut de physique et du globe de Paris, le phénomène risque de durer.
Le dernier épisode dans la région du sud-ouest de l'Islande, la péninsule de Reykjanes, où ça se produit en ce moment, c'était il y a 8 siècles. Donc pendant 8 siècles, c'était une zone qui était calme, et puis maintenant elle s'est remise en activité. Donc sur environ une quinzaine de kilomètres, ça s'est écarté, le sol s'est fracturé, du magma s'est injecté dans la croûte et remonté des profondeurs, et ça a donné lieu à une première éruption en 2021, puis en 2022, 2023 et 4 depuis décembre. Des épisodes récurrents parce que le magma s'injecte régulièrement depuis la profondeur jusqu'à, disons, entre 3, 5, 8 km de profondeur sous la croûte, là, sous cette zone. Et puis, de temps en temps, comme le sol est fracturé et est écarté, eh bien, le magma arrive à atteindre la surface. Et en ce moment, on a une éruption tous les mois. Alors, cette activité est très spectaculaire quand les éruptions démarrent. Jusqu'alors, ça avait affecté plutôt des zones inhabitées, mais en décembre et puis en début janvier, les coulées se sont rapprochées, même ont touché la ville portuaire de Grindavik plus au sud, sur la côte. On ne peut pas arrêter une éruption, mais par contre, on peut contenir les coulées de lave en érigeant des barrières, des digues elle-même en lave, hein, puisqu'on prend le matériau qui est sur place avec des bulldozers. Ça marche bien et ça permet de gagner du temps, en particulier de préserver les installations critiques, notamment la centrale géothermique de Svartsengi, mais aussi en partie pour le moment la ville de Grindavik. Mais c'est à craindre, c'est que cette activité dure plusieurs années, on ne peut pas l'écarter.
Le volcanologue Patrick Allard répondait à Véronique Rebérotte. La météo, il fera souvent gris demain matin, surtout sur la moitié nord. Mais l'après-midi, la plupart des régions profiteront de belles périodes ensoleillées. Les températures minimales iront de 4 à 12 degrés, les maximales de 14 à 19 sur la moitié nord, de 17 à 24 au sud. Ce journal a été préparé avec Jean-François Braun.